Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'ostéomalacie oncogénique, ou tumeur inductrice d'ostéomalacie, ou TIO. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Guillaume Couture. Docteur Couture, bonjour.
Bonjour.
Docteur Couture, vous êtes rhumatologue, praticien hospitalier au sein du service de rhumatologie du CHU de Toulouse et clinicien du centre de référence de Toulouse des pathologies phosphocalciques de la filière OSCAR. Alors avec vous, docteur Couture, nous allons aborder le diagnostic des TIO ou ostéomalacie oncogénique. Et pour débuter notre entretien, dans quel cadre suspecter une tumeur ostéomalaciente ?
Alors, il y a essentiellement deux situations qui peuvent nous faire évoquer une tumeur ostéomalaciente. La première va être surtout clinique devant un patient qui présente des fractures ou des fissures à faible énergie cinétique, voire spontanée, mais de présentation inhabituelle et qui n'évoque pas en premier lieu une ostéoporose commune. Il peut s'agir d'un terrain différent chez un homme ou une femme jeune n'ayant pas de facteur de risque classique d'ostéoporose et surtout de fractures ou de fissures de localisation différente de l'ostéoporose, comme par exemple des fractures de côte, des fractures des métacarpes, des fractures des os longs, même s'il peut également s'y associer des fractures vertébrales comme dans l'ostéoporose. La deuxième situation va être lors de la réalisation d'un bilan biologique, soit de routine ou pour une autre raison, ou lors d'un bilan d'ostéoporose d'allure classique, où l'on va découvrir sur ce bilan biologique une hypophosphatémie.
Et concrètement, comment effectuer le diagnostic biologique de cette maladie ?
Ces tumeurs ostéomalacientes sont en général des petites tumeurs mésenchymateuses qui sécrètent du FGF23, qui est une des principales hormones phosphaturiantes. Cela va entraîner une hypophosphatémie avec une phosphaturie inadaptée, soit augmentée, soit normalement normale. Le diagnostic donc de ces TIO va être initialement d'abord biologique et se fera en deux étapes. La première va être de confirmer le diabète phosphaté. Le dosage de la phosphatémie est parfois un peu compliqué, avec parfois des fausses hypophosphatémies. Il est donc nécessaire de faire un dosage du bilan phosphocalcique sanguin et urinaire le matin, à jeun strict, en évitant les hyperventilations. Le prélèvement doit être techniqué rapidement, tout cela dans le but d'obtenir une phosphatémie fiable et donc une vraie hypophosphatémie. Si la phosphatémie est basse, on regarde alors la phosphaturie, donc le dosage de la phosphatémie dans les urines, et si elle est et on regarde si elle est adaptée ou non à la phosphatémie en calculant le TRP et le TM phosphate, soit le seuil de phosphaturie. On peut s'aider de formules qu'on peut trouver sur Internet ainsi que du normogramme de Bayfoot qui nous aide à savoir s'il y a donc une sécrétion inadaptée de phosphore au niveau urinaire en rapport avec le taux de phosphatémie sanguin. Il faut ensuite écarter les diabètes phosphatés non lié au FGF23 en dosant la PTH qui est une cause fréquente lorsqu'elle est élevée d'hypophosphatémie, la TSH et rechercher des signes de tubulopathie proximale en lien avec un syndrome de Fanconi qui peut être complet ou non avec un dosage du ionogramme sanguin, une uricémie, une bicarbonatémie ainsi qu'une glycosurie et une bicarbonaturie qui peuvent également être estimées avec une bandelette urinaire. On peut également doser les protéines de bas poids moléculaire et à Toulouse, on utilise beaucoup le dosage de la cystatine urie qui est un bon marqueur de signes de souffrance du tubule proximal. Il y a également des causes plus rares de diabète phosphaté que l'on appelle les transportopathies qui sont dues à des dysfonctionnements des transporteurs phosphates au niveau rénal. Une hypercalciurie ou une histoire de lithiase rénale, de néphrocalcinose peut nous les faire suspecter. Une fois ces causes d'hypophosphatémie dédouanées, on dose alors le FGF23 qui se dose de deux manières, soit le FGF23 intact qui est la forme active de l'hormone mais dont le dosage à ma connaissance ne se fait que dans des centres spécialisés, soit le FGF23 C-terminal qui est un produit de dégradation de l'hormone active et qui peut être fait en ville mais qui est actuellement non remboursé. Devant un tableau de diabète phosphaté avec une hypersécrétion de FGF23, on a donc un diagnostic biologique qui nous oriente vers une tumeur ostéomalacienne.
Et donc, dans ce cadre, quels sont les diagnostics différentiels à écarter ?
La principale difficulté, vraiment, c'est de faire le diagnostic d'ostéomalacie avec diabète phosphaté par hypersécrétion de FGF23, ce qui nous permet d'éliminer les principales autres causes de diabète phosphaté que nous avons vues plus haut, qui peuvent avoir des présentations cliniques proches. Il y a tout de même quelques diagnostics différentiels d'ostéomalacie par hypersécrétion de FGF23. Il y a les causes génétiques rares comme les rachitismes vitamine D résistants hypophosphatémiques avec parfois des symptômes cliniques très frustres, sans histoire familiale, ce qui fait que le diagnostic peut être fait parfois de manière tardive. Il y a quelques autres pathologies génétiques qui sont également rares, qui peuvent s'accompagner d'une hypersécrétion de FGF23, comme les dysplasies fibreuses des os, en général les formes polyostotiques qui peuvent s'intégrer dans le cadre d'un syndrome de McCune-Albright, ou le cutaneous squelettal hypophosphatémia syndrome qui associe des névis épidermiques, une dysplasie osseuse et une hypersécrétion de FGF23. Enfin, il y a une cause qui est relativement fréquente, qui vont être les perfusions de fer, donc le fer sous forme injectable, qui entraîne des hypersécrétions de FGF23 et donc une ostéomalacie par diabète phosphaté. Lorsque ces perfusions de fer sont uniques, cela n'entraîne pas de conséquences cliniques, mais lorsqu'elles sont répétées à un rythme inférieur de tous les 2-3 mois pendant plusieurs mois, cela peut entraîner un vrai tableau d'ostéomalacie parfois fracturaire qui peut mimer tout à fait une tumeur ostéomalaciente. Je tiens juste à dire que les supplémentations en fer oral n'entraînent pas d'ostéomalacie ou d'hypophosphatémie, c'est uniquement les perfusions répétées de fer en injectable.
Et un point important, docteur Couture, comment localiser la tumeur une fois qu'on a fait ce diagnostic biologique ?
C'est la bonne question, c'est souvent une des difficultés une fois le diagnostic biologique confirmé. Il faut savoir que ce sont de toutes petites tumeurs, en général mésenchymateuses, avec une croissance très lente, qui peuvent être vraiment partout. Elles peuvent être osseuses ou dans les tissus mous, voire parfois cutanés. Il n'y a pas de recommandation, bien entendu, mais à l'heure actuelle, le PET scan corps entier semble être un des meilleurs examens pour localiser la tumeur, d'autant plus qu'il existe maintenant des traceurs qui sont des analogues des récepteurs de la somatostatine qui sont très exprimés par ces tumeurs-là. Donc, un PET scan corps entier au DOTATOC ou au DOTAT semble être, à l'heure actuelle, un des examens les plus performants pour localiser la tumeur. J'insiste bien sur le PET scan corps entier car c'est tumeurs peuvent vraiment se situer partout, de la tête aux pieds, et parfois ces PET scans peuvent être coupés au niveau des membres ou au niveau du crâne, et donc faire rater le diagnostic de la lésion.
Et ensuite, comment confirmer qu'il s'agit bien de la lésion responsable de la maladie ?
Une fois la tumeur potentiellement localisée, on peut faire, lorsque cela est possible, une biopsie, ce qui nous permettra d'avoir une preuve anatomopathologique qu'il s'agit bien d'une tumeur ostéomalaciente. On peut également faire un dosage du FGF23 tissulaire sur ces biopsies osseuses, alors cela peut être fait dans quelques centres spécialisés, qui nous permet de voir que dans cette tumeur, il y a un taux de FGF23 augmenté. Et finalement, la normalisation du tableau biologique puis clinique après la résection de la tumeur permet de confirmer définitivement le diagnostic, même s'il existe parfois des récidives en cas de résection incomplète notamment, ou de manière très exceptionnelle, des localisations secondaires.
Et pour conclure notre entretien, docteur Couture, en cas de suspicion forte ou de diagnostic établi, à qui adresser ces patients ?
Alors, c'est un diagnostic qui peut être parfois un peu compliqué lorsque l'on n'a pas l'habitude des troubles phosphocalciques. Donc, on peut tout à fait adresser le patient à un médecin ayant l'expérience de ce genre de pathologie. Il s'agit souvent des rhumatologues travaillant dans les pathologies osseuses et ce type de troubles, ou parfois des néphrologues ou endocrinologues. Très souvent, ces médecins travaillent au sein du réseau de santé maladies rares de la filière OSCAR et on les retrouve dans les centres de compétences ou de référence des pathologies phosphocalciques dont les coordonnées sont disponibles sur Internet.
Eh bien, merci mille fois, docteur Couture, de nous avoir fait mieux connaître à cette maladie rare qu'est l'ostéomalacie oncogénique ou tumeur inductrice d'ostéomalacie ou TIO. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !